Il est 18h30, tout juste sur RFI 17h30, en temps universel, et c'est l'heure du grand débat avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, et ce soir, dans le débat du jour, eh bien, nous évoquons l'Europe dans la course à l'IA.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car ça ne vous a pas échappé. Si vous écoutez RFI, un sommet mondial sur l'intelligence artificielle a lieu jusqu'à demain à Paris. Pour la France et l'Europe, voilà l'occasion de faire entendre sa voix dans un secteur dominé par les États-Unis et la Chine. Le vieux continent arrive derrière, mais il se démarque par sa volonté d'accompagner le développement de l'IA et bien d'une régulation destinée à protéger les droits humains face aux possibles dérives de la machine. Notre question ce soir, dans un tel contexte, est-ce que l'Europe peut peser ? Est-ce qu'en raison de ce cadre, eh bien, l'Europe est destinée à courir après les deux géants ? Faut-il mettre en place un plan pour l'IA ? Quel plan ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Ophélie Coelho, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse indépendante en géopolitique du numérique, autrice du livre « Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant ». Face à vous, Raja Chatila, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite d'intelligence artificielle, robotique et d'éthique des technologies à Sorbonne Université. Et notre troisième invité en ligne avec nous, David Corman, bonsoir.
Bonsoir.
Député européen écologiste, et on va parler de ce contre-sommet que vous avez organisé en fin de semaine dernière, réinventer l'intelligence artificielle pour une révolution numérique au service de l'humain et de la planète. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Ophélie Coelho, qu'est-ce que l'organisation de ce sommet, déjà le fait qu'il y ait ce sommet mondial à Paris, qu'est-ce que ça dit de la place de l'Europe en général, de la France en particulier dans l'IA ?
Ça dit les ambitions en effet de se positionner et d'essayer de montrer que voilà, en Europe on peut faire des choses en gros. Après évidemment c'est aussi une période du coup d'émulation, d'opportunisme économique à outrance même, hein, je veux dire. Donc l'objectif de ce sommet c'est vraiment de vendre la France en fait comme territoire d'accueil, j'ai envie de dire, des technologies d'intelligence artificielle et de montrer aussi qu'on peut avoir des technologies européennes quoi.
D'accord. Il y a un message précis sur le poids aujourd'hui, parce que la France est quand même plutôt bien placée en Europe concernant l'IA.
Oui, après cette course-là, si vous voulez, encore faut-il qu'elle ait vraiment du sens. Quand on conçoit des technologies d'intelligence artificielle, si elles sont dépendantes de technologies de grands acteurs leaders du marché, comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut, voilà, on perd notre indépendance et on perd notre atout stratégique.
Donc,
il faut toujours, par exemple, vous avez Mistral IA, qui est voilà. Un acteur français,
le premier acteur intéressant, français.
Voilà. Le premier acteur, voilà, en effet, acteur français dans l'IA générative, mais qui en fait utilise les capacités de calcul de géants du numérique, de Microsoft Azure, Google Cloud.
D'accord, ils pourraient pas avancer sans les Américains.
Bah, ils pourront le faire si justement ils développent des capacités de calcul. Donc, ce qu'ils vont faire, voilà. Après, là-dedans aussi, sur le sommet de l'IA, je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi pendant ce débat. On dit, voilà, il faut absolument accélérer, avancer le plus vite possible. Donc, on met de l'argent, beaucoup d'argent, hein, dans la balance pour construire des centres de données à tout va. Je pense qu'il faut aussi modérer cela par, oui, mais qu'est-ce qu'on veut faire réellement avec l'IA ? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose comme ça d'accélérer et de foncer, en fait, hein, dans ces technologies-là ? Et donc, il y a un moment, il va falloir aussi freiner un petit peu enthousiasme qui est plutôt de devenir consommateur le plus rapidement possible, en réalité, et qu'on se pose les bonnes questions. Et je pense qu'on se les pose pas encore, en fait. On n'en est pas encore là, malheureusement.
Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait ? La question, c'est est-ce que les Européens veulent faire comme les Américains ou comme les Chinois concernant l'IA, c'est ça ?
Déjà, pour commencer, oui. Ouais. Plutôt que d'utiliser les mêmes modèles commerciaux, plutôt que de faire exactement les mêmes erreurs et de concevoir des technologies aussi malsaines que celles qui sont conçues par les États-Unis ou par la Chine, bien, essayons peut-être de concevoir d'autres modèles, déjà, premièrement. Et ensuite, plutôt que de construire tout de suite des centres de données très rapidement qui peuvent effectivement nous donner une place stratégique en termes d'infrastructure, c'est vrai, en termes stratégique, poser la question de ben oui, mais alors en termes de gestion des risques et en termes notamment énergétiques, Macron vient de parler dans son discours de 90 TWh annuel d'excédent. Voilà. Ouais. Alors oui, d'accord, 90 TWh d'excédent, mais c'est justement annuel. Donc c'est pas comme si on avait quelque chose de qu'on pouvait moduler heure par heure. Voilà, la consommation d'un centre de données, c'est un peu comme l'agriculture. Voilà, c'est tous les jours un petit peu par-ci par-là. Et non, c'est pire que l'agriculture. C'est-à-dire que on a une incertitude du moment en fait où va y avoir une surcharge de ouais. justement de demandes sur ces infrastructures-là. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez d'informations malheureusement sur cette élément-là, c'est un angle mort de la stratégie actuelle.
Rajesh Attila, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le vainqueur de l'IA, en tout cas celui qui est leader dans l'IA, c'est celui qui a le plus investi ?
Alors, pour qu'il y ait vainqueur, il faut d'abord qu'il y ait bataille. La bataille n'a pas eu lieu pour bonne raison.
Il y a une bataille, en tout cas, au moins entre États-Unis et Chine. Peut-être que l'Europe est derrière, c'est ce que vous voulez dire ?
Disons que ça fait très longtemps que les États-Unis développent très, très, très fortement l'intelligence artificielle. Quand je dis ça fait un certain temps, c'est depuis les années 50. Avec différents paradigmes de l'IA, ils ont toujours été leader mondial dans le domaine. Il ne faut quand même pas non plus l'oublier. Et à tel point que, bien sûr, ils attirent les talents et les cerveaux des autres pays. Si vous allez dans la Silicon Valley, vous allez rencontrer quelques Français, beaucoup de personnes d'origine chinoise et indienne. Donc, ça montre bien aussi cet effet qui est extrêmement important à signaler quand même. Pour pouvoir bâtir leur puissance, bah, ils font appel à tous les cerveaux et bien sûr, ils ont les moyens de les attirer. La bataille, je dirais, n'a pas eu lieu parce que dès le départ, il n'y avait pas de comparaison. Alors, la Chine a fait un effort considérable, effectivement, avec une volonté naturellement nationale, quoi, je veux dire étatique, pour lancer ses industries et ses universités, et ils ont atteint un certain niveau. À côté de cela, l'Europe, en termes de présence scientifique sur le domaine de l'intelligence artificielle, existe aussi depuis longtemps, depuis les années 60. Nous avons toujours participé aux conférences mondiales, etc. Je parle de la partie recherche. En revanche, nous n'avons pas bien pris le tournant industriel de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs raisons à ça, mais certaines restent pour moi assez mystérieuses quand même. Le fait est que l'intelligence artificielle aux États-Unis a connu le développement considérable qu'elle a connu à cause d'industries qui n'avaient strictement rien à voir à proprement parler avec l'intelligence artificielle, qui avaient à voir avec la publicité et qui avaient à voir avec le fait de mettre les gens en réseau. C'était Facebook, le fait de faire un moteur de recherche avec une démarche très astucieuse pour présenter les pages, Google, avec un industriel particulier qui s'appelle Apple, qui lui construit plutôt des systèmes et des ordinateurs, ce que nous ne faisons plus pratiquement en Europe. Vous voyez que c'est arrivé aux États-Unis parce que ces industriels-là, et je parle particulièrement de Google et de Facebook, possédaient les données.
Mais donc, en fait, l'Europe pour aller plus vite, l'Europe s'est faite distancer par les États-Unis sur l'IA parce qu'elle s'était déjà faite distancer sur les nouvelles technologies au sens large. Vous faites référence à Apple, à Facebook, ce sont les réseaux sociaux, et de là, effectivement, l'IA est née.
Ben oui. Il y a des fondements quand même, je veux dire.
Mais en fait, il y a un lien. C'est comme, en fait, l'Europe n'a jamais été leader pour les smartphones, n'a jamais été leader pour les semi-conducteurs. Ben, elle ne l'est pas dans l'IA.
C'est une continuité technologique, Ophélie Coelho. Clairement.
Exactement. Oui. Nous avons de grands industriels. Je ne vais pas les citer, mais enfin, on les connaît. Mais ce ne sont pas des industriels de l'IA. Ce sont des industriels dans certains secteurs. Ces secteurs peuvent utiliser de l'IA. Donc, ils développent de l'IA dans la mesure où leur secteur s'y intéresse. Mais pas l'IA, finalement, comme ça, comme on dit, blue sky, quoi, qui est une recherche sans objectif particulier. Le chercheur chez Google, si je peux juste conclure rapidement, le chercheur chez Google, aujourd'hui, a beaucoup plus de liberté que l'enseignant chercheur dans nos universités ou le chercheur dans nos institutions de recherche. Non seulement il a beaucoup plus de liberté, il a beaucoup plus de salaire, il n'a pratiquement pas d'obligation, il peut chercher dans des directions très différentes. L'intelligence artificielle générative a été possible grâce à une recherche qui a été menée par des chercheurs de Google en 2017. Donc, vous voyez, il y a aussi quelque chose qui est dans l'essence, quoi, problématique dès le départ, pour comparer l'Europe avec les États-Unis ou avec la Chine.
Dans les sens, c'est intéressant. David Cormand, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que, à partir de ce que nous dit Rajesh Attila, l'Europe est vouée à être dépassée par les États-Unis et la Chine sur la question de l'IA.
Oh, j'ai pas dit vous et...
Non, mais j'interprète à partir de... Je pose une question à partir de votre propos.
Oui, je pense que la question politique qu'il faut se poser quand on parle de course, c'est quelle course on décide de faire. Donc on peut considérer que cette course, c'est pas nous qui décidons de son parcours et de l'objectif qui est décidé, hein, c'est ce qu'on essaye de nous imposer, ou au fond, le destin de l'Union européenne serait de choisir entre deux modèles, que serait le modèle chinois ou le modèle américain, qui à mon avis d'ailleurs ont tendance à converger. Ce serait trop long à expliquer, mais on est de plus en plus vers deux modèles où des très grands groupes, des très grandes firmes industrielles, d'une certaine façon s'hybrident avec l'État. C'est historiquement le cas en Chine. C'est en train de se faire, en tout cas, on le voit avec l'hybridation Trump et les chevaux légers de la Silicon Valley qui l'ont commandité. Moi, la question qui m'intéresse politiquement en tant que député européen, c'est quel modèle on veut pour l'Union européenne. Or, et ça a été dit par vos intervenants, le modèle numérique en général et d'IA en particulier, tel qu'il est promu, en l'occurrence par les États-Unis, c'est à des fins extrêmement mercantilistes, donc de publicité, mais aussi désormais, comment dire, d'ingérence impérialiste, j'ai presque envie de vous dire.
Ouais.
Les géants de ce numérique, avec une capacité de capitalisation absolument colossale, sont en train de coloniser l'ensemble des domaines économiques. Donc la question qu'on a à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment de ce monde économique que nous voulons ?
Même si l'enjeu, c'est peut-être rater ce virage-là, qu'on annonce, encore une fois, comme un virage essentiel de la réindustrialisation.
Non, mais j'entends ce discours-là. C'est normal que vous posiez la question. Je crois qu'il y a un vrai risque. Le vrai risque, en réalité, ce n'est pas de perdre cette course, c'est de se contraindre à cette injonction qui nous est faite en disant « Oulala, très vite, il faut mettre des milliards, et puis il ne faut pas de réglementation, et puis il faut aller plus vite, regardez les Américains, regardez les Chinois. » C'est un piège. L'Union européenne a beaucoup d'atouts. D'abord, nous sommes la première puissance commerciale du monde. Donc en fait, aucun des géants dont on parle ne peut avoir un modèle économique viable sans les Européennes et les Européens, puisque nous sommes le premier pouvoir d'achat du monde. Je ne vous dis pas que c'est, mais c'est quand même pas rien. Et donc, il faut arrêter d'intérioriser une forme de faiblesse. Deuxièmement, et ça a été dit, on est pour l'instant extrêmement bon en recherche, moins en développement. Mais il y a énormément de personnes absolument brillantes sur les questions du numérique et notamment de l'IA. Ce qui leur manque, ce n'est pas de faire pareil que les Américains ou les Chinois. Ce qui leur manque, c'est un écosystème à la fois de développement et économique avec des standards européens. Et c'est là-dessus que moi, je déplore que l'Union européenne ait du mal à émettre ses standards, même si, avec un certain nombre de législations qui ont été mises en œuvre pendant la dernière mandature du Parlement européen, de l'Union européenne, on a réussi à mettre en place un certain nombre de principes pour guider ce que devait être le développement du numérique. Mais il ne faut vraiment pas lire, comment dire, cette idée de régulation comme quelque chose qui serait un frein à l'innovation.
Ouais.
Je pense même profondément l'inverse. Je pense que c'est des régulations autour de valeurs fondamentales, dont le respect de l'environnement, par exemple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, avec l'envahissement par des forces rwandaises pour choper quoi ? Des matières critiques ? Pour quel type de modèle de numérique ? Toutes ces questions-là, il faut se les poser. On peut poser des questions sur nos données, les droits humains, sur les droits de propriété intellectuelle, sur nos libertés fondamentales, sur l'avenir du travail, bref, sur tous ces sujets qui définissent une société. Et donc, quand on commence à réfléchir à quel numérique on veut, la question première, c'est quels usages, quel imaginaire on souhaite, et c'est à partir de là qu'on construit un écosystème.
Ophélie Coelho, est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'enjeu, tout l'enjeu de l'Europe, c'est soit elle participe à la course effrénée, telle que l'a édicté David Cormon, est lancée par les États-Unis et la Chine, au mépris finalement de la culture européenne, du respect des droits fondamentaux, l'Union européenne respecte ses convictions. On va parler peut-être de l'IACT, il y a une réglementation déjà pour justement protéger les droits fondamentaux des humains, quitte à pas dans le même cours que les États-Unis ou la Chine dans l'enjeu économique.
Il y a plusieurs enjeux, en fait. Là, en l'occurrence, on a vraiment affaire à une continuité de l'impérialisme américain qui a du coup mis en place plusieurs leviers de puissance et de pouvoir, en fait, dont la technologie, technologie de renseignement, technologie numérique, et puis qui sont du coup utilisés à la fois dans les entreprises, dans l'industrie, mais aussi dans le militaire. Même chose du côté de la Chine, qui du coup exploite ses capacités technologiques aussi pour asseoir sa puissance. L'Europe, en fait, qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à ça ? Étant donné qu'elle est très dépendante de ces acteurs, et principalement les acteurs américains, aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation géopolitique parfois complexe. Elle n'est pas que dépendante sur les questions des technologies numériques, d'ailleurs. Elle l'est aussi sur certains aspects, comme l'énergie, par exemple, le GNL, hein, depuis la guerre en Ukraine. Voilà, il y a une dépendance accrue qui s'est faite sur le GNL américain. Tous ces éléments-là stratégiques pèsent dans les relations internationales. À chaque fois qu'il y a des décisions à prendre importantes et des négociations à avoir avec ces acteurs-là. Aujourd'hui, on le voit avec l'élection de Trump. Quelle position peut avoir l'Europe sur certaines questions essentielles ? Eh bien, c'est là où ses dépendances, en fait, et ses rapports de force pèsent dans la balance. Donc, l'important pour l'Europe, à mon sens, n'est pas forcément d'être dans cette course effrénée, ouais, d'essayer de dépasser des géants qui, de toute façon, ils ne dépasseront pas, en fait, dans la logique de marché, mais plutôt, en fait, d'essayer de trouver des moyens de peser, de trouver d'autres leviers de pouvoir pour mettre en dépendance ces mêmes acteurs, en fait, les mettre en dépendance afin d'avoir des rapport de force, disons, possible, sain, et de pouvoir peser dans les négociations.
Mais est-ce que
c'est une première chose. Et ensuite, la réglementation, voilà, ouais, sur la régulation. Ce qui a permis, en fait, l'émergence des géants technologiques aux États-Unis, c'est en effet l'affaiblissement de la réglementation, et notamment régulation antitrust aux États-Unis. D'accord ? On a laissé de plus en plus de liberté à ces acteurs privés. On a laissé la possibilité, on les a laissés grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent de très grands géants technologiques. Eh bien, le fait est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on veut vraiment avoir ce type de géant en Europe ? La question se pose. En réalité, sur le marché, certes, ceux qui ne voient que la boussole économique se disent « il nous faudra des champions européens en capacité d'être concurrents sur le marché ». Mais est-ce qu'on veut vraiment des empires privés qui ont tant de pouvoir ? La réponse en Europe, par rapport a priori à nos valeurs, à notre cheminement idéologique historique, a priori, non. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas avoir des multinationales du numérique qui ont tant de pouvoir, en fait. Donc, il faut qu'on trouve un autre modèle. Et il faut continuer à encadrer ces usages-là, à encadrer l'acteur privé, qui prend trop de place à notre époque, et à encadrer également le numérique, parce que les enjeux derrière, pour la société, sont importants.
Mais jusqu'à quel point est-ce que l'Europe peut être performante avec ce cadre-là ? En plus, vous avez dit que les systèmes étaient interdépendants.
Oui,
donc, ça veut dire qu'en fait, l'Europe est un petit peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin des systèmes américains, mais elle n'adhère pas à ses valeurs. Elle dicte ses valeurs à elle.
Alors, en fait, justement, c'est là où il faut sortir des dépendances. Il y a une stratégie à faire de sortie de dépendance et de remplacement, de transition, d'une certaine manière, vers justement plus d'indépendance numérique sur des secteurs clés. Et quand je parle de secteurs clés, je parle de socles importants pour la société, la santé, l'éducation, la presse, d'accord, l'administration, la sécurité. En fait, il y a des piliers comme ça sur lesquels il faut qu'on ait plus de maîtrise technologique, parce que c'est ça qui est important, en fait, ce qui fait société et qui fait sens pour le collectif. Donc il y a ça, ça c'est important à prendre en considération. Ensuite, sur la réglementation, il y a toujours un discours très libéral et très, voilà, alors c'est le discours des libertariens aussi, hein, qui vont dire, voilà, état minimaliste, voire même état inexistant, déréglementation, dérégulation totale, et donc ça, parce que la régulation viendrait s'opposer, ouais, à l'idée d'innovation. Ce n'est pas vrai. C'est une idée, cela. En fait, on peut tout à fait concevoir des technologies qui soient à la fois innovantes et qui, pour autant, respectent la société et respectent, disons, un certain nombre de valeurs.
Les deux peuvent aller de pair, vous le dites. Rajesh Attila, je pense que vous pensez la même chose, puisque vous aviez, à la fin de l'année dernière, co-signé dans Le Monde cette tribune de plusieurs spécialistes de l'IA, intitulée « Renoncer à un encadrement juridique ambitieux de l'intelligence artificielle affaiblirait la position historique de l'Europe ». Comment est-ce que vous réagissez dans ce cadre-là, à ce projet qui a été lancé par plus de 60 grandes entreprises, qui doit être présenté ce lundi, justement, à l'Élysée, à Emmanuel Macron, le président français, à 15 autres chefs d'État et de gouvernement européens, projet qui appelle à faire de l'Europe un leader mondial en simplifiant drastiquement le cadre réglementaire européen.
Oui, alors, quand il y avait les négociations sur le règlement européen sur l'IA, beaucoup d'entreprises, parmi les grandes de la Silicon Valley, se sont exprimées publiquement et de manière très véhémente contre ce règlement, en menaçant même que, puisque c'est comme ça, il ne viendrait pas sur le marché européen. Bon, ils sont toujours là, le règlement est passé, il est en train de s'appliquer petit à petit. Pourquoi ? Comme l'a dit Madame Coelho, nous sommes le plus grand marché effectivement, les intéresse. Donc, ils ne vont pas l'abandonner du jour au lendemain. Il ne faut pas céder au chantage. Il ne faut pas céder non plus, il ne faut jamais renoncer à ces principes, parce que ce sont ces principes qui nous font effectivement vivre. Mais j'irai plus loin. Moi, je dis qu'une réglementation sur l'intelligence artificielle, qui est une réglementation qui s'appuie sur des valeurs, qui est donc un cadre vertueux, c'est ce qui peut nous permettre d'innover bien. Le mot innovation, d'une certaine façon, ne dit pas sur quoi on innove. Je peux innover en inventant un nouveau poison qui va tuer la moitié de la planète. C'est une innovation. Ouais. Vous l'achetez ? Non.
On a compris que ce n'est pas la course effrénée qui... Et ouais. Vous avez dit qu'effectivement, le but n'était pas uniquement la performance économique et que l'enjeu éthique était tout aussi important et qu'il fallait concilier les deux. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut réduire, simplifier, comme le disent ces grandes entreprises, le cadre réglementaire européen ? Est-ce que vous le pensez ?
Je ne pense pas qu'il faut réduire le cadre réglementaire. Il faut peut-être l'adapter dans certains secteurs. Le cadre est aussi sectoriel. Mais s'il s'agit, par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cadre réglementaire qui pourraient être effectivement simplifiées pour que ça aille plus vite, mais surtout que ça reste quand même respectueux des principes. Mais il ne faut pas céder à ce chantage, c'est-à-dire juste déréglementer pour entrer dans la course. C'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion ? Parce que c'est le plus grand qui va gagner. S'il n'y a pas de règles, celui qui veut innover bien, il sera immédiatement balayé parce qu'il ne pourra pas avoir les moyens d'innover correctement. Je vais prendre un exemple, si vous permettez. Ce n'est pas un exemple nouveau, parce qu'on le prend souvent. C'est l'aviation. Si les États européens n'avaient pas, en 1970, décidé de créer Airbus, on aurait tous aujourd'hui, bien sûr, des avions qui ne sont pas européens, c'est-à-dire en particulier, on aura des avions américains. Qu'est-ce qui s'est passé quand Boeing, voulant mettre le 737 MAX 8 sur le marché rapidement, fait en sorte que la réglementation américaine sur la certification de l'aviation soit effectivement affaiblie ou levée, donc elle a fait de l'auto-certification, le résultat, ça a été deux accidents mortels qui ont emporté plus de 300 personnes. Toute la chaîne de construction de Boeing est aujourd'hui en cause. La déréglementation, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne fait plus le produit de manière à respecter la sécurité des passagers, en l'occurrence ici, mais de manière plus générale, la sécurité des utilisateurs et aussi leurs droits.
IA, l'Europe peut-elle peser ? La question qu'on pose ce soir, alors que se déroule jusqu'à demain le sommet mondial en France, et alors que les déclarations sur ce sujet se multiplient. Il y a quelques instants, la commissaire européenne chargée de la souveraineté technologique, sécurité et démocratie, qui affirme que l'Union européenne encadrera l'intelligence artificielle de façon à ce que l'innovation et l'investissement soient favorisés. C'est ce que vous nous dites finalement ce soir, vous trois. Ophélie Coelho, chercheuse indépendante en géopolitique du numérique. Raja Chatila, professeur émérite d'intelligence artificielle, robotique et d'éthique des technologies à Sorbonne Université, et David Cormon, député européen et écologiste. David Cormon, c'est intéressant parce que Ophélie Coelho nous a dit qu'il fallait parvenir à une forme de souveraineté numérique pour justement ne plus être interdépendant de systèmes américains notamment qui ne sont pas validés d'une certaine manière par l'Europe d'un point de vue éthique évidemment. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt pour une entreprise compétitive de l'intelligence artificielle à investir en Europe, à rester en Europe ?
Mais parce qu'on est les premiers acheteurs du monde. Enfin, il faut vraiment comprendre ça. C'est que l'Union européenne est une très grande puissance mondiale. Et donc, quand vous venez investir dans un espace aussi prospère, j'ai envie de dire, même si cette prospérité pourrait être mieux répartie, en fait, vous avez un avantage objectif. Par ailleurs, l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, a des universités de haut niveau et donc fournit des personnes qui sont hautement qualifiées. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que on entend cette petite musique du déclin de l'Union européenne, qui serait, on serait des petites choses et qu'il faudrait serrer la main des grands pour pouvoir être moins de la loose. En fait, il faut arrêter avec ce raisonnement-là. Parce que c'est un raisonnement d'abord qui est complètement dépressif et surtout qui nous prépare au renoncement, qui nous prépare au fait que nous n'aurions plus rien à dire au monde quelque part, que nous n'aurions toutes les valeurs sur lesquelles on a construit l'Union européenne, tout ça devrait être soldé en profits et pertes parce que voilà, il y aura une forme de pragmatisme. La question qui se pose, est, si on utilise le terme de souveraineté, la souveraineté, on utilise le terme souveraineté économique, la souveraineté d'abord, c'est la souveraineté populaire, le fait de pouvoir être libre de son destin et fort de son destin quand on est des citoyennes et des citoyens. Ça, aujourd'hui, clairement, le numérique tel qu'il est en train de se développer, on le voit avec les initiatives de X, anciennement Twitter, de Musk, met en danger cette capacité d'avoir des élections qui se passent dans des bonnes conditions. La souveraineté, c'est aussi avoir la souveraineté sur, et ça a été dit par Ophélie Coelho, des questions fondamentales, comme la santé, l'éducation, l'accès à la culture. Ça aussi, ce sont des secteurs qui sont attaqués par les géants du numérique, en l'occurrence américains. Et dernier point, et qui est peut-être le plus fondamental, et j'aimerais vraiment insister sur ce point, même si ça a été dit. Ce qui est attaqué aujourd'hui par ces géants, c'est la souveraineté au sens le plus régalien du terme, c'est-à-dire les infrastructures stratégiques, y compris de défense. Vous avez entendu il y a quelques jours Google, qui avait pris un engagement facultatif, de dire « nous, on n'entraînera jamais les IA sur les questions de défense », et qui disent « ah ben finalement, on a changé d'avis ». Regardez Starlink de Musk, où il a aujourd'hui un réseau de satellites qui se substitue à ce que devraient être des infrastructures de défense autonomes. Ils battent monnaie avec les cryptos. Pourquoi tous les géants, enfin toutes les boîtes de crypto ont soutenu Trump ? Parce qu'il y a cette recherche de synthèse entre un hyper-libertarisme, à ne pas confondre avec le libéralisme, et en plus des idéologies d'extrême droite. Et donc l'Europe aujourd'hui, c'est à ça avant tout qu'on est confronté. On n'est pas confronté à des gens qui nous domineraient dans tous les domaines et on serait comme dans une citadelle assiégée. Non, on est confronté à des gens qui, pour des arrière-pensées économiques, sont en train de se conduire en impérialiste de façon extrêmement brutale. Et donc, par rapport à ça, voilà.
Ophélie Coelho, j'aurais qu'on avance parce qu'on approche déjà de la fin de ce débat, mais effectivement, on a compris le cadre auquel l'Europe ne doit pas, vous le dites, renoncer. Est-ce que l'Europe, cependant, investit suffisamment pour être un acteur incontournable dans le domaine de l'IA? Aujourd'hui, par exemple, vous avez cité Mistral AI, Mistral qui est la première entreprise française dans l'IA. Les investisseurs étrangers, c'est 80% du capital. Ça montre aujourd'hui le niveau français de l'IA.
Quand on voit, par exemple,
encore une fois, on a bien compris qu'il n'y avait pas à copier les Américains, mais le plan de Donald Trump, c'est 500 milliards de dollars.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se baser là-dessus, en fait. Il ne faut pas se baser sur les chiffres.
Est-ce qu'il ne faut pas un plan européen pour l'IA?
Il y a des plans pour l'IA. Il y aura même demain encore un autre plan qui sera annoncé. Il y avait aussi Horizon, hein, qui est le plan européen où il y avait une bonne partie sur l'IA. Donc, il manque pas d'initiative, en fait, si vous voulez. Il manque pas d'initiative. Néanmoins, je reviens sur l'idée de régulation européenne. Juste pour une chose, très rapidement. Mais oui, mais finalement, on n'a pas expliqué une chose qui me semble vraiment évidente. C'est que quand on parle de code informatique, on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire qu'on a une faiblesse de base sur le droit du numérique. Et on a tendance à dire le droit du numérique européen, c'est le plus fort. Mais en réalité, on ne peut pas contrôler les règles, si les règles sont respectées ou pas. On ne peut pas ouvrir le capot. C'est pas comme quand vous pouvez aller vérifier dans une usine si les conditions sont respectées. Ouais. On a un vrai problème de compréhension là-dessus, qui est que même si on régule, on passe des années à écrire des textes, in fine, le régulateur ne peut pas contrôler si ces règles sont respectées in fine dans le code.
Et c'est pour ça que les open source sont beaucoup cités en exemple en
quand
Europe.
Quand c'est du vrai open source, oui, voilà. C'est important.
Et en tout cas, l'Europe peut, vous le dites, peser avec ses valeurs, avec sa culture, et il ne s'agit pas de concurrencer directement. En tout cas, on ne joue pas dans la même cour que les États-Unis et la Chine, pour résumer. Merci beaucoup à vous trois, et merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, et Hélène Abril à sa réalisation. Juste après le grand journal du soir, qui sera dans une minute, ce sera l'heure d'Afrique Soir. Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir, Sylvie ?
Nous parlerons du Niger, puisque l'ONU dénonce la détention arbitraire de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, renversé, vous le savez, par un coup d'État. C'était en juillet 2023. Les Nations Unies réclament sa libération immédiate ainsi que celle de son épouse. Nous parlerons bien sûr de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Deuxième jour d'accalmie sur le front. Des réactions à Kinshasa au sein de la classe politique après le sommet extraordinaire des pays de la communauté d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, où les chefs d'État de la région ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Et puis à Goma, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, demandent aux déplacés menacer de rentrer chez eux. Enfin, en Afrique du Sud, le gouvernement fait bloc contre Donald Trump, le président américain qui accuse